Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Faudra-t-il une troisième dose pour tout le monde avant de retrouver Amandine pour le rappel des titres? Nous sommes avec Bruno qui est pharmacien à Levallois. Votre sentiment, bonjour.
Bonjour, troisième dose, quatrième dose, cinquième, sixième, septième, c'est des rappels en vérité.
Bah oui, c'est bien ce que j'ai compris puisque le vaccin dure 6 mois, 8 mois, 10 mois. Donc effectivement, on y retourne tous les 6, 8, 10 mois. Amandine, le rappel des titres.
Et les élus locaux le réclamaient depuis plusieurs jours. La rentrée des classes va être reportée aux Antilles et dans les zones rouges de Guyane, reportée au 13 septembre au lieu du 2. La décision a été prise ce matin en Conseil de défense sanitaire. Dans l'actualité également, les chiffres du chômage et la tendance se poursuit. Moins 1,6% pour le mois de juillet. Ça signifie que plus de 60 000 personnes ont pu retrouver du travail le mois dernier. Actuellement, 3 600 000 personnes sont au chômage en France. Et puis lui est soupçonné d'avoir frappé Dimitri Payet pendant le match Nice-OM dimanche dernier. Le supporter qui avait été interpellé sera jugé cet après-midi en comparution immédiate. Il est en garde à vue depuis lundi soir, notamment pour violence volontaire à l'occasion d'une manifestation sportive. Je vous rappelle que les clubs de l'OM et de Nice sont convoqués ce soir devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Peggy Broche. Et c'est du beau temps pour tout le monde,
exactement.
C'est ça, l'été.
Voilà, c'est l'été, exactement, enfin. Avec un ciel bleu pour tout le monde. Enfin, comme vous dites, il faudra en profiter, ça ne va pas durer, je dis ça, je dis rien. Quelques bémols, alors surtout en montagne, essentiellement avec un peu de nuages, voire une petite ondée sur le massif central, ça peut tourner à l'averse orageuse sur les Pyrénées, les Alpes et le relief Corse. Tout ça sous des températures donc très agréables au nord comme au sud. 30 degrés à Nîmes, 29 à Marseille, Auch et Toulouse, 28 à Nice et Bordeaux, 27 à Nantes, 26 à Grenoble, Lyon et Tours, 25 degrés à Paris et Reims, 24 à Besançon et Metz et 22 au Havre.
Et vous le disiez, ça ne va pas durer, retour des nuages au nord demain.
Et oui, entre le Nord-Bretagne et le Grand Est, le ciel sera bien couvert le matin, quelques trouées possibles dans la journée. Au nord de la Seine, une petite ondée ne sera pas
avec Pascal, ça vous désespère.
Mais enfin, vous avez annoncé que c'était terminé, vous vous fichez de nous.
Mais non, c'est terminé pour un temps, mais ça reviendra, ce sera beaucoup
mais
plus lumineux.
Non, mais j'ai pas rêvé, vous avez dit hier qu'il allait faire beau tout le temps dans le nord.
Pas tout le temps,
Pascal, vous voyez comment vous...
Pour quelques jours. Ah et bon. Puis ça s'arrête demain.
Oui, il fait jamais beau.
Ça s'arrête demain pour une journée. Ensuite, ça ira un petit peu mieux. Mais on retrouvera quelques éclaircies, quand même, quelques trouées au nord de la Seine demain. Ce ne sera pas complètement plombé toute la journée. Et puis, au sud de cette ligne-là, évidemment, plein soleil. Un petit peu de mistral qui va se renforcer légèrement l'après-midi entre 50 et 70 km/h. Et les températures, forcément, elles vont baisser un peu au nord. À nouveau, sous les nuages, 19 à Cherbourg,
merci.
Plus que 22 à Paris. Je m'arrête là, c'est ça?
Merci.
On perdra 3 degrés par rapport à aujourd'hui.
Merci.
Comme à Reims, 22 à Nantes. 26 à Biarritz, 27 à Lyon, encore 30 degrés à Montpellier, Marseille, 31 à Toulouse et même 32 à Nîmes.
Merci Peggy.
Je vous en prie Pascal.
Merci Amandine.
Merci à vous.
Je vous donne rendez-vous demain.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Donc nous sommes avec Bruno qui d'une manière ironique, pharmacien, disait troisième dose, quatrième dose, mais... Comment dire, je veux pas dire que ça ne me choque pas, mais si on a un vaccin qui dure 6 mois, 8 mois, c'est la logique. Alors évidemment, c'est très contraignant, mais je vois pas comment on peut faire autrement.
Ben, moi, j'appelle plus ça des doses, j'appelle ça des rappels. Donc là, pour l'instant, on est en train de parler de doses, donc je pense que c'est déjà qui crée la polémique. Appelons un vaccin un rappel quand on fait une première dose, la deuxième, la troisième, la quatrième, ce sont des rappels. Mais je vous dis, moi, j'ai eu une expérience à la pharmacie hier. J'ai un couple qui est venu à la pharmacie de personnes âgées. Il y en a un qui a fait la sérologie. Les deux ont fait la sérologie. Et une des deux personnes avait une sérologie très élevée. Ça veut dire qu'elle avait beaucoup d'anticorps. Est-ce que cette personne avait la nécessité de faire une troisième dose?
La réponse est non. C'est ce que disait tout à l'heure
oui.
Monsieur Sebag. En fait, il faudrait faire du cas par cas. C'est ça
oui,
qui est difficile.
Mais
la sérologie, c'est facile à faire, une sérologie.
Oui, vous allez en laboratoire d'analyse, vous faites une sérologie et vous voyez le taux d'anticorps que vous avez dans le corps.
Ça, c'est très facile. Bon, il faudrait faire du cas par cas et faire confiance aux uns et aux autres. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est difficile sans doute à mettre en place. Mais Robert Sebag, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, il y a, paraît-il, une très grande différence d'un individu à l'autre. Simplement,
je vous dis, deux personnes, mari et femme, il y en a une personne qui avait 2500... unité d'anticorps, et l'autre, à la deuxième dose, au même moment, donc, avait été à 100. la personne qui a 100, je comprends qu'elle fasse un rappel, parce que moi j'en ai marre d'appeler ça une troisième dose.
Non, mais vous avez raison en plus, je trouve que c'est, vous avez parfaitement raison.
Donc un rappel, au moins c'est clair, on fait un rappel pour relancer le taux d'anticorps dans le sang.
Vous êtes le deuxième qui dit ça, Robert Sebeck disait la même chose tout à l'heure, donc c'est intéressant parce qu'en fait vous avez un avis de scientifique, pardonnez-moi de vous avoir coupé Bruno.
Non, je vous en prie. Et donc, en fin de compte, la personne qui a 2000 ou 3000 unités d'anticorps, franchement, est-ce que c'est nécessaire d'aller se précipiter, faire une troisième vaccination ou un troisième rappel? Pour moi, non. Je pense qu'il faut justement laisser le corps avec ses anticorps maximum et qu'il diminue. Et peut-être qu'il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui vont garder le taux d'anticorps élevé. Et puis, il y a une question qu'on ne pose pas, Pascal. La mémoire du corps. Quand vous injectez un produit dans un corps, le corps le retient et crée des anticorps. Donc, est-ce que même une infime partie d'anticorps, est-ce que ça ne peut pas relancer la réponse immunitaire du corps? Ça, personne n'en parle. Je ne comprends pas.
C'est-à-dire que je ne peux pas vous répondre à cette question, Bruno. Oui. Mais en revanche, on va prendre Benoît, qui est cadre commercial, qui habite Vannes et qui paraît pas forcément enchanté à l'idée d'avoir une troisième dose. Bonjour, Benoît.
Bonjour, Pascal.
Vous êtes vacciné déjà?
Eh bien, écoutez, moi, j'ai fait Johnson.
Donc vous êtes vacciné une fois.
Donc, j'ai appris hier que l'unique dose dont j'avais besoin ne sera toujours pas suffisant. On a vraiment envie de m'injecter l'ARN messager, apparemment.
Si on s'est fait vacciner Johnson, on ne peut pas faire une deuxième dose Johnson?
Non, là, ça va être Pfizer. Voilà.
Vous êtes sûr de ça?
Oui, oui.
Ça c'est effectivement ennuyeux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi Janssen pour ne pas avoir l'ARN messager.
C'est mon cas, hein, voilà. Et bon, écoutez, les Anglais ont l'air de pas trop mal s'en sortir avec leur vaccin. On va pas polémiquer là-dessus. Hein. Alors j'écoutais votre auditeur juste avant, on peut appeler ça comme on veut, hein, une dose, un rappel. Bon, de toute façon, ce qu'il y a dans la fiole, ça sera la même chose. Hein. Que ce soit une dose ou un rappel, c'est exactement la même chose qu'on va nous injecter. Donc on peut donner différents noms, mais le résultat est le même. Moi, ce que je suis complètement... j'en ai ras-le-bol, hein, je vous le dis tout de suite, j'en ai ras-le-bol. Déjà, je ne vais plus au restaurant, je ne vais plus nulle part, même si je suis vacciné, parce que je ne cautionne pas tout ce qui se passe actuellement, cette histoire de passe sanitaire. C'est les gens de plus de 65 ans, c'est les immunodépresseurs, c'est maintenant les gamins qu'on va vacciner. Enfin, on continue à mettre tous les œufs dans le même panier en parlant de la vaccination. Et à aucun moment, je vois l'argent aller vers des traitements qui pourraient...
Il y a quand même des traitements qui se mettent en place. Mais ce qui est étonnant dans votre démarche, c'est qu'elle est paradoxale. Parce que d'un côté, vous êtes vacciné, donc vous pourriez aller dans les restaurants. Et de l'autre côté, vous n'y allez pas alors que vous avez un pass sanitaire. C'est étrange.
Écoutez, j'ai des enfants qui ont plus de 12 ans. Je fais quoi? Je les laisse dans la voiture et je vais au restaurant?
Ah non, mais les enfants de 12 ans, ils ne sont pas obligés d'avoir un pass sanitaire aujourd'hui?
Si, parce qu'on y arrive.
Mais pas aujourd'hui, ce n'est pas encore décidé.
Quand ils veulent aller à la patinoire et qu'il faut un pass sanitaire pour plus de 12 ans, on fait quoi? Je laisse dans la voiture, je vais à la patinoire sans eux?
Mais il n'y a pas de pass. Il y a un pass sanitaire pour la patinoire aujourd'hui? Pour un enfant de 12 ans?
Mes enfants qui vont vouloir aller dans un club de sport à la rentrée, ils vont devoir fournir un pass sanitaire?
Mais là encore, tout ça n'est pas acté, ça, c'est mis en place sans doute, mais au jour où on est le 24 août aujourd'hui, on peut encore aller dans une patinoire ou dans un club de sport sans pass sanitaire, nous sommes d'accord. Vos enfants, vous ne voulez pas les faire vacciner?
Non, je ne veux pas les faire vacciner. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vous avais écouté, Pascal, ça a été très intéressant, avec ce médecin qui vous parlait de l'ivermectine, et vous leur disiez, oui, j'ai déjà très peu de chance de faire une forme grave du Covid. Bon, sachez que mes enfants, ils ont encore moins de chances.
Mais non, mais je suis d'accord avec vous.
Donc, d'où je vais aller faire vacciner mes enfants? Donc, tout le monde parle de bénéfice risque. Et là, d'un seul coup, on zappe tout ça, on zappe le traitement, on zappe la vaccination.
Non, mais ce qui est très compliqué en plus pour les enfants, c'est que, a priori, ils devraient se faire vacciner pour protéger les autres. Nous sommes d'accord.
Mais qui sont les autres, Pascal?
Non, mais de protéger, de ne pas transmettre le virus. Or, on apprend que même si tu es vacciné, tu peux transmettre le virus. Donc, c'est très compliqué pour les enfants. Moi, je trouve que c'est un sujet très délicat.
Pascal, vous voulez que je fasse vacciner mon enfant pour protéger des gens qui remplissent les services de réanimation? D'accord? C'est-à-dire les gens qui ont des fragilités de santé, des personnes âgées. Donc moi, je vais faire vacciner un enfant en bonne santé pour protéger les autres.
Non, mais on n'est même pas sûr.
Les millions d'euros qui sont dépensés en publicité à la télévision et tout ça, je préférais qu'on utilise cet argent et qu'on arrête de mettre tous nos œufs dans le même panier et qu'on mise un peu maintenant sur le traitement. Parce que moi, ce gouvernement, depuis 20 mois, je ne les ai pas entendus une seule fois parler de traitement, sauf pour démonter, par exemple, comment il s'appelle, le professeur Raoul. Alors là, pour démonter quelqu'un qui a essayé de mettre quelque chose en place, là, ils ont été très forts.
Mais à aucun merci, moment, Benoît.
Ces gens-là nous ont parlé de traitement.
Merci Benoît, mais même l'idée de ne pas transmettre, je le rappelle, est remise en cause ces dernières heures et que même si tu es vacciné, tu peux transmettre. C'est pour ça que c'est compliqué pour un gosse de 12-18 ans parce que pour lui, se faire vacciner, a priori, il a peu de probabilité de terminer en réa et en même temps, il continuera, en étant vacciné, à transmettre le virus. Donc là, il y a un sujet particulier pour les jeunes enfants et les enfants. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Magasin.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessier, comme tous les jours.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir au 3210. Faudra-t-il une troisième dose pour tout le monde? Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, en est persuadé.
On ira, je pense, à une troisième dose pour une grande partie de la population vaccinée. Troisième dose, une fois de plus, pour stimuler la réponse immunitaire.
À l'heure actuelle, la Haute Autorité de Santé a préconisé une dose de rappel pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles qui présentent des risques de formes graves. 18 millions de personnes sont concernées. Qui dit troisième dose dit sûrement d'autres encore, vous dites peut-être.
C'est sans fin.
Mais cette troisième dose est-elle indispensable? Y a-t-il d'autres priorités? Oui, pour le docteur Robert Sebag, il était l'invité de RTL Midi.
La priorité aujourd'hui, ce n'est pas cette troisième dose. La priorité, c'est encore les 20% de personnes à risque dans notre pays qui ne sont pas vaccinés. Ça doit être la priorité.
Alors êtes-vous prêt pour une troisième dose? Benoît était avec nous au début de l'émission, son état d'esprit?
J'en ai ras-le-bol, hein. Je vous le dis tout de suite, j'en ai ras-le-bol.
Eh bien, nous attendons vos avis, vos témoignages au 3210, 3210.
Bah, nous sommes avec Franck, qui est artisan à Lyon. Bonjour Franck.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes vacciné?
Oui.
Vous êtes vacciné à quel vaccin?
J'ai eu les deux injections de Pfizer.
Bon, et vous allez bien?
Ah, je vais très très bien.
Non, mais c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas de conséquences à ce vaccin. Vous n'avez jamais été ni souffrant, ni,
non. Mes
parents, ni d'effet indésirable.
Non, mes parents et mes frères et sœurs ont tous été vaccinés.
Oui.
Avec Pfizer, on n'a eu rien du tout.
D'accord. Parce qu'on entend parfois des gens qui se plaignent et avec des effets indésirables, donc c'est important de dire aussi. D'ailleurs, on peut, s'ils nous écoutent, hein, des gens qui ont été vaccinés, moi je suis prêt à tout entendre, bien évidemment, et qui souffrent peut-être de soucis qu'ils ont rencontrés après la vaccination. Franck, vous êtes pour une troisième dose?
Je ne suis pas pour, mais si médicalement elle s'impose, histoire que l'immunité face au virus ne soit pas trop remise en cause, et histoire que l'efficacité du vaccin soit toujours bonne, s'il faut la faire, on la fera, c'est tout. Ça prend 10 minutes.
Oui, ce qui est plutôt logique, d'ailleurs, si vous êtes fait vacciner à deux reprises déjà, en tout cas si vous avez reçu deux doses. Vous avez 43 ans, vous êtes jeune, a priori vous n'êtes pas dans la catégorie à risque.
Non, moi je ne suis pas dans la catégorie à risque, simplement il faut penser aussi aux autres. Et il faut se dire que... Alors, c'est vrai ce que vous dites. Hein. On apprend maintenant qu'on a une charge virale aussi forte, qu'on soit vacciné ou pas.
C'est ça qui est quand même très ennuyeux. Quoi. C'est... Le sentiment qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de... On tâtonne un peu et que de temps en temps, on fait passer au forceps une vaccination auprès de certaines populations qui peut-être pourraient... Et je prends des précautions, bien sûr, qui pourraient échapper à cette vaccination. D'abord parce qu'ils ne sont pas concernés directement par la maladie, et ensuite parce que ça ne change rien, ils continuent à la transmettre. Donc il y a quand même un petit débat, si vous me permettez.
Pendant votre flash info, j'écoutais le médecin Robert Sebag, il a raison. C'est les 20% qui manquent de personnes âgées et à risque qu'il faut vacciner en priorité avant de penser éventuellement à une troisième dose. Quand on aura vacciné ceux-là, déjà on sera pas mal. Et oui, sur la vaccination des 12-18 ans, pour moi elle est superflue. Elle est superflue parce que les enfants font pas de forme grave. Pour moi, on devrait pas les vacciner. Mais voilà, à partir du 31 août, pour aller au supermarché, pour aller au cinéma, etc., il y aura besoin d'un pass sanitaire, y compris pour les enfants. Et du coup, s'ils ne l'ont pas, voilà, plus de ciné, plus de sorties, plus de restaurants, plus de... Bon, donc on va devoir y passer pour les enfants. C'est dommage, je pense qu'en dessous de 18 ans, ils auraient pu s'abstenir de faire ça. Mais après, Pascal, si je peux me permettre une petite aparté, vous avez des pays, au Maghreb notamment, où ils sont dans une situation sanitaire mais catastrophique. Ils rêveraient d'avoir à disposition les vaccins qu'on a nous. Et nous, on fait la fine bouche et on se plaint en disant « Ah non, je ne veux pas me faire vacciner. » Franchement, il y a une forme d'indécence. Je trouve qu'il y a une forme d'indécence à ça. On a un vaccin, eh ben, faisons-le et puis allez, la vie, elle continue. Voilà.
Vous êtes vacciné depuis combien de temps, Franck ?
Moi, deuxième injection le 27 avril.
Donc là, ça va bientôt faire 6 mois.
Ouais.
Ce qui est certain, c'est que la sérologie est peut-être, dans ces cas-là, le meilleur indicateur. Et c'est pour ça que c'est au cas par cas. C'est ce qu'on disait avec Robert Sebag tout à l'heure. C'est qu'au bout de 6 mois, chacun fait une sérologie et voit les anticorps qu'il a. Et puis, en fonction de cette réponse, il fait ou non une troisième dose. Ça peut être une solution. Merci beaucoup, Franck.
Bon,
merci, il est 13h17, on va marquer une nouvelle pause. Je salue Damien Béchiot.
Je vous salue également, Pascal.
Mais qui est très discret aujourd'hui.
Oui,
et
je suis concentré.
Et ben, n'hésitez pas en tout cas à être moins concentré et à parler avec nous.
Ah d'accord.
Et pourquoi pas même nous proposer...
quelques musiques.
On pourrait ou peut-être écouter
des Rolling Stones
autre...
pour rendre hommage à
Charlie Watts. Effectivement, tiens, ça c'est pas mal. On l'a mis au programme, Charlie Watts, j'espère, Laurent Tessier.
Il me dit oui.
Le batteur, j'écoutais Stephen Ballery ce matin, qui expliquait qu'on l'entendait, Charlie Watts, et il disait qu'on n'est pas obligé d'avoir de la batterie pour s'entraîner. On peut, si on a la batterie...
Sur des boîtes de conserve.
Exactement, si on a la batterie dans l'oreille, on peut taper sur un bureau, sur des livres et s'entraîner de cette manière-là. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole. Super. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Les Rolling Stones ont 80 ans et ça c'est terrible. En tout cas, les membres des Rolling Stones avaient 80 ans puisque c'était l'âge de Charlie Watts. Les Rolling Stones auront 60 ans la saison prochaine. Je rappelle qu'à compter du 30 septembre, le pass sanitaire obligatoire s'étend pour les adolescents à partir de 12 ans. Et parmi eux, certains auront tout juste l'âge d'ailleurs imposé, n'auront donc pas encore pu se faire vacciner. Donc c'est le 30 septembre que ça entre en rigueur et que ce sera obligatoire. Nous sommes avec Faisal. Bonjour. Faisal qui est aide-soignant à Marseille.
C'est ça.
Bonjour, vous êtes vacciné, j'imagine, aide-soignant.
Pas encore.
Mais qu'est-ce que vous attendez ?
Ce que j'attends. Et en réalité, vraiment, j'ai peur. J'ai peur de faire ce vaccin parce qu'il y a encore des inconnus.
Vous êtes du métier, c'est ça qui est étonnant. Vous êtes aide-soignant. Tous les grands professeurs expliquent dans votre entourage que vous pouvez vous faire vacciner. C'est intéressant d'ailleurs. Vous avez peur, c'est irrationnel ou il y a des raisons de votre peur ?
C'est pas irrationnel, je pense qu'il y a des raisons, étant donné la nouveauté de cette technologie qui est, selon les articles, toujours en phase expérimentale, en phase 3.
Non mais on sait tout ça, j'ai pas envie d'entrer une nouvelle fois. Mais ce qui m'intéresse, est-ce que vous connaissez des gens par exemple qui ont été vaccinés et ça s'est mal passé ?
Mes collègues infirmières pour qui la première a eu le bras qui a triplé de volume, qui est devenu tout bleu, donc il y a des complications au niveau veineux.
Mais ça a duré quelques heures peut-être ?
Ça a duré quand même quelques jours même. Il a fallu qu'elle s'arrête et qu'elle puisse
se rétablir. Mais ça fait partie, rétablir. J'imagine, de... C'est regrettable, bien sûr, mais pour n'importe quel vaccin, vous auriez pu avoir ce type de réaction. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été vacciné il y a 2 mois, 3 mois et qui a aujourd'hui encore des séquelles de son vaccin ?
Je vais vous dire la vérité, j'en connais pas.
Bah, c'est donc il y a une part d'irrationnel.
Il y a une part d'irrationnel, bien sûr.
Après. Mais vous avez le droit. Hein. Moi, je veux pas être du tout dans la position de celui qui vous donne une leçon, etc. C'est vraiment, alors, loin de moi cette idée. Et je comprends qu'on puisse être irrationnel. Moi, d'ailleurs, je comprends qu'on puisse avoir peur. Vraiment,
Est-ce que c'est pas rationnel dans le sens où on ne connaît pas les effets sur le long terme? Ok, sur le court terme, on peut avoir des petites complications qui se rétablissent vraiment.
Mais à long terme, qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse arriver? Puisque le vaccin, c'est extraordinaire ça. Le vaccin, il est tellement dissous qu'on est obligé de le refaire au bout de 6 mois.
Et ça aussi, c'est paradoxal. Enfin, il y a plein de
vous voyez. Il n'est plus là au bout de 6 mois, il n'est plus actif. Donc on ne peut pas imaginer qu'un vaccin qui n'est plus efficace au bout de 6 mois, dans 5 ans, il y a une troisième oreille qui me pousse sur la tête.
Je ne dis pas qu'il y a une troisième oreille qui poussera sur la tête, ni des yeux qui me sortiront d'un endroit qui n'est pas convenable, mais je veux dire, la naissance de cellules cancéreuses, je ne sais pas, la réaction du corps, enfin, je veux dire, on a un corps aussi qui agit de...
Mais ça, c'est... je veux dire, j'entends ce que vous dites, mais moi, je suis comme vous, je suis démuni, donc il y a un moment, tu es obligé d'écouter quand même. Il y a 3 milliards de gens qui ont été vaccinés.
Ouais.
Bon, il y a des conséquences et des effets indésirables comme il existe sur plein de vaccins. Mais vous dites, on n'a pas de recul. Si, on a quand même maintenant quasiment une année de recul sur ce vaccin.
Une année, est-ce que sur les autres vaccins, il y a une seule année de recul, je veux dire, sur les vaccins classiques, hein, sans technologie ARN, avec ce qu'on appelle...
Bon, en fait, vous n'allez jamais vous faire vacciner, Faisal.
Honnêtement, je vais devoir me faire vacciner, mais c'est sous contrainte pour ne pas perdre mon métier. J'ai quand même une situation... on a tous une vie, et puis il faut assumer aussi, on a des responsabilités, des factures, Et des choses à payer, enfin, je veux dire, c'est la vie courante, quoi. Il va falloir que je me fasse vacciner, c'est soit ça, soit je change de métier, et puis même dans un autre métier ou même dans un autre salaire, on va devoir être imposé et en final.
Bon, Faisal, vous savez ce qu'on va faire? Yannick est médecin à la retraite, il va échanger avec vous. Bonjour Yannick.
Bonjour Pascal.
Bonjour, vous écoutez Faisal, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
J'ai envie de lui dire que, effectivement, chacun a certaines peurs, mais. Je pense que nos ancêtres récemment sous Pasteur avaient la même peur. Or, on a quand même démontré que M. Pasteur a démontré qu'en vaccinant les gens, on supprimait les maladies qui tuaient beaucoup de monde. Mm-hmm. Voilà, donc il faut considérer la chose dans son ensemble. Effectivement, il y a quelques accidents, il y a quelques... On parle de 6 000 morts aux États-Unis, mais bon, c'est 6 000 morts sur presque 200 millions de doses. Bon, voilà. Et qui dit que ces gens-là ne seraient pas décédés du Covid s'ils n'avaient pas fait le vaccin. Donc,
je crois que Covid ou d'autres choses. Je veux dire, la vie est faite de plein d'autres virus et de plein d'autres maladies. C'est vrai que.
Bien sûr.
Ils auraient pu décéder de n'importe quoi à partir du moment où ils avaient des comorbidités, des risques de la vie courante, hein, c'est sûr.
Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc le vaccin, on est content de l'avoir parce que c'est quand même lui qui va nous permettre de lutter contre ce virus. En même temps, plus on vaccinera, plus on aura de variants, ça on le sait.
Donc, je me permets de rajouter une chose. Si j'avais pu avoir la possibilité de me vacciner avec ce vaccin Janssen qui me semble fait partie des vaccins à virus désactivés,
ouais.
J'aurais pris rendez-vous dès la première
date. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous pouvez vous faire vacciner, Janssen?
Il ne me semble pas. Quand on prend les rendez-vous...
Janssen, vous allez chez votre médecin, vous faites Janssen?
Oui, oui,
mais moi, je vais demain.
Allez-y demain, Janssen. Alors, Faisal, vous savez ce qu'on va faire, hein? Vous allez vous faire vacciner et vous nous rappelez demain. Mais vous faites vacciner Janssen. Janssen, c'est une dose. Moi, je comprends ce que vous dites. Et voilà. Il n'est pas ARN messager, donc vous faites Janssen. C'est très bien.
À partir de ce moment-là, je sais que...
Mais vous apprenez... Enfin, vous êtes aide-soignant. Ce n'est pas moi qui vous apprends que vous pouvez vous faire vacciner au Janssen. Non.
Tout à fait.
Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Parce que je sens que c'est par tranche d'âge qui dit...
Non, Janssen, c'est... Mais non, Janssen, c'est n'importe quoi.
Il n'y a plus de limite d'âge.
Il n'y a plus de limite d'âge. Bon, Faisal Yannick...
Je n'étais pas au courant de cette information.
Vous avez bien fait de nous appeler. Parce que vous voyez, le 3210 RTL vous a donné cette information. Alors, Olivier est à la page Facebook. Nous connaissons Olivier et nous prenons l'habitude chaque jour d'aller à la page Facebook avec Olivier qui scrute tous ces messages. Et que nous dit-on?
Eh bien écoutez Pascal, donc bonjour à tous sur nos réseaux sociaux. Bonjour. Philippe nous dit bien évidemment que l'on aura le droit à une troisième dose, puis une quatrième, cinquième et même sixième, pourquoi pas. Tout est déjà malheureusement planifié. Pour Aline, elle dit j'ai 71 ans, donc c'est normal si on me préconise une troisième dose, mais c'est une honte si on l'impose aussi aux plus jeunes dans les mois à venir. Alain, quant à lui, s'en réjouit, c'est sanitairement nécessaire de vacciner, laissons râler les anti-vaccins sans s'occuper de leur bavardage totalement incohérent. Et enfin, pour Céline, rien de bien choquant. On vaccine déjà nos anciens de la grippe tous les ans et ça ne choque absolument personne.
En tout cas, c'est un débat qui divise. On va marquer une nouvelle pause et poursuivre ce débat. Il y en aura d'autres également. Vous pourrez réagir sur Mbappé. Est-ce que vous avez peur qu'il quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid? La primaire à droite, est-ce que vous irez voter? Il y a beaucoup de candidats, manifestement. Éric Ciotti, c'est RTL qui le révélait ce matin. Appelez-nous.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On a eu un débat tout à l'heure passionnant avec Benjamin Sportouche. On a appris que cette primaire LR, rien n'est encore acté. Il y aura un bureau des LR en septembre qui décidera si oui ou non cette primaire existe. Et il nous rappelait que Christian Jacob, qui est le président des LR, ne veut pas d'une primaire. Donc vous voyez, c'était quand même assez complexe.
C'est sans fin aussi.
Je ne sais pas si c'est sans fin, mais en tout cas, il y a beaucoup de candidats.
Nous vous attendons sur ce sujet au 32-10. Iriez-vous voter une primaire de la droite? RTL, vous le révélez ce matin, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, va annoncer son entrée dans la course samedi.
Éric Ciotti met donc tout en place pour se lancer ce week-end à sa rentrée dans l'arrière-pays niçois avec 2000 militants attendus. Projets et équipes sont dans les cartons. Mais avant de se jeter dans la bataille pour de vrai, il a encore quelques coups de fil à passer. Le plus important, appeler Nicolas Sarkozy, la figure incontournable à droite.
Et pour y voir plus clair, qui va à cette primaire actuellement? Dites-nous tout, Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL.
Pour l'instant, officiellement, Valérie Pécresse et Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, ils se sont tous les deux déclarés officiellement. Michel Barnier aussi, le négociateur du Brexit, s'y prépare. Il devrait se déclarer bientôt, nous dit-on.
La primaire, Xavier Bertrand ne veut pas en entendre parler. Il l'avait déclaré chez nos confrères de TF1.
La primaire, elle a été source de division. Tous ceux qui étaient passés par des primaires ont été éliminés dès le premier tour de l'élection. On voit bien que ce sont plus souvent des machines à perdre. Je ne serai pas candidat à une primaire.
Est-elle vraiment une machine à perdre? Le politologue Benjamin Morel était l'invité de RTL Midi.
Pendant longtemps, ça a été un instrument de médiatisation pré-campagne et ça a permis de porter des candidats. Le problème, c'est que les primaires ont eu également des effets pervers, comme je le disais, que ça a fracturé le paysage politique et qu'aujourd'hui, les grands partis qui servaient de filtre à la vie politique, qui permettaient en réalité de désigner un candidat qui faisait l'unanimité dans son camp, aujourd'hui sont fragilisés et donc les partis, quand on parle de LR, qui à défaut de pouvoir réellement filtrer ses candidatures, en sont remis à trouver une voie différente de filtre, s'en remettent aux primaires, plus par choix aujourd'hui, mais plutôt par défaut, d'où la position compliquée de Christian Jacob.
Qui peut être le meilleur candidat à droite? La primaire, stop ou encore, électeurs sympathisants LR, c'est à vous dès maintenant au 32-10.
On va terminer et dire au revoir à Faisal avant de passer précisément à la primaire. Faisal qui est aide-soignant à Marseille et donc qui va se faire vacciner. Janssen, puisqu'il avait un peu peur de l'ARN messager. Et Faisal, je vous propose de nous rappeler, dès que vous avez pris rendez-vous, ça va peut-être pas être aujourd'hui ou demain, mais ça va être rapide.
Je suis sur le site de Doctolib et effectivement, il propose toujours une vaccination par tranche d'âge, justement, où propose...
Ça, c'est très étrange parce que vous allez chez votre médecin traitant, il fait Janssen, il fait Moderna aussi, le médecin traitant. Et je crois même que les pharmaciens, j'en suis sûr, même les pharmaciens vaccinent.
Il me semble aussi, oui.
Donc vous n'avez pas de souci pour trouver le vaccin. Merci Faisal.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Je voulais quand même, s'il y a possibilité, rebondir sur quand même la troisième dose, puisque c'était le sujet de la discussion, si vous me permettez.
Je vous en prie.
Il me semble quand même... que même un vaccin ARN ou vaccin à virus désactivé, il me semble quand même qu'il faudrait quand même cibler tout d'abord les personnes avec comorbidité qui sont à risque, plutôt que de forcer les gens, parce qu'à terme, à mon avis, ce n'est que mon humble avis, c'est plus d'ordre par intérêt financier qu'on propose des doses et comme disaient des auditeurs précédemment, on va avoir presque un forfait vaccinal ou on va avoir à terme peut-être 8 ou 10 doses, qui sait. Et voilà, mon avis, c'est qu'à terme, ce sont des intérêts financiers qui sont derrière tout ça. C'est pas nuire à la population ou éliminer. Je veux dire, je suis pas dans cet argumentaire. Je pense que c'est surtout une question d'argent et d'intérêts financiers.
Bah merci. Merci, il est 13h33.
Une bonne après-midi et merci pour votre accueil.
Eh bien, c'est gentil. Merci, c'est ça. Il est 13h33, on change de sujet.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors la primaire à droite, on a appris ce matin que Éric Ciotti allait être candidat. Il y a déjà Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, je le rappelle, ne l'est pas, Philippe Juvin l'est, peut-être Laurent Wauquiez. Et nous sommes avec Jacques. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour Pascal.
Ah, je reconnais votre voix Jacques. Vous nous appelez régulièrement, vous m'avez manqué pendant cet été.
Ah, vous aussi, Pascal, vous m'avez manqué.
Bon, vous allez bien? Vous passez un bon été?
Je passe un excellent été et je vais prendre quelques jours de vacances bientôt. Là.
Bon, vous êtes un électeur plutôt de droite?
Oui, oui, dans tous les cas, je suis plutôt un électeur de droite. Et je rebondissais, alors je pense que Ciotti a eu de meilleures idées que ça, de vouloir se présenter. Parce que pour moi, la primaire, c'est une... Je vais reprendre ce qui a été dit, c'est une machine à perdre, ça divise, ça, il y a des rancœurs qui vont sortir, et finalement, tout le monde va y perdre, et en plus, ça coûte quand même un petit peu d'argent, et les finances aujourd'hui des Républicains ne sont pas quand même florissantes. Hein, à une époque,
pourquoi vous dites c'est une machine à perdre? Parce que la dernière fois, à droite, c'est pas les primaires qui ont fait perdre François Fillon, c'est autre chose.
Oui, c'est un ensemble qui a fait perdre... Mmh.
Pas les primaires. Les primaires, au contraire, allaient plutôt bien fonctionner.
Non, mais ça divise. Malgré tout, ça divise. Et puis, ça attise les rancœurs. Et puis, moi, si vous voulez, j'ai déjà un petit peu mon candidat. Ça sera ou Pécresse ou Bertrand. Et j'ai un petit fait de pour Valérie Pécresse parce que j'aimerais bien, pourquoi pas, qu'une femme soit présidente de la République. Ça serait bien l'alternance, peut-être. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est toujours délicat lorsqu'on demande à un journaliste ou à un animateur de se prononcer en faveur d'un homme politique. C'est quand même toujours un peu piégeux. Générale, de dire qu'une femme puisse accéder à la fonction suprême, effectivement, ça serait une révolution dans notre pays. Vous savez que il n'y avait pas de reine en France. Hein. On est sous la loi Salique. Il y a des reines en Angleterre, mais il n'y avait pas de reine en France. L'héritier mâle qui régnait. Donc on a une tradition, effectivement, d'homme de pouvoir. Et peut-être de ce point de vue-là que ce serait intéressant d'avoir une femme de pouvoir au sommet de l'État pour voir comment ça se passe.
En plus, je trouve que Valérie Pécresse est une femme intelligente. Qui sait écouter, qui gère bien sa région apparemment, et je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de classe, et j'aime bien cette femme.
Bon, bah écoutez, c'est pas vraiment le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est est-ce qu'on est pour ou contre la primaire, mais j'entends ce que vous dites.
Les primaires, de toute façon, ça ne fonctionnera pas, et ça va, à mon avis. On va laver le linge en famille. C'est pas bien. Je trouve que c'est pas bien pour la famille politique des Républicains. Et je pense que Christian Jacob va avoir une lourde décision à prendre le moment venu. Et je serai lui, je regarderai quand même les finances.
Merci Jacques de ce témoignage. Vous étiez le premier à intervenir sur les primaires. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur... Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les Rolling Stones, Charlie Watts, si vous voulez lui rendre hommage, vous avez peut-être écouté Eric Jean-Jean, Anthony Martin également ce matin. Et toutes... les voix musicales d'RTL, si j'ose dire, pour rendre hommage au batteur des Rolling Stones. Nous sommes sur le sujet de la primaire. Nous allons être avec Théo, qui est étudiant, et c'est toujours bien d'avoir, je le dis régulièrement, mais d'avoir des voix très jeunes et des pensées peut-être différentes. Les pensées de demain, pourquoi pas. Théo, vous êtes étudiant en droite. D'abord, vous êtes pour ou contre la primaire?
Alors, si une primaire à droite, oui. Dans le contexte actuel, oui, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de candidat de droite qui se dégage naturellement actuellement. Donc je pense que c'est bien de faire appel aux militants, justement, aux adhérents LR, pour justement avoir, avoir un candidat qui se dégage par les urnes, en fait, parce qu'à défaut de se dégager naturellement.
C'est vrai qu'il n'y a pas de candidat naturel. À droite, le candidat naturel, ce serait Nicolas Sarkozy. Il est en dehors du circuit aujourd'hui. Il ne souhaite plus revenir en politique. Et Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez. Moi, j'ai le sentiment que ces quatre candidats, vous les mettez dans un premier tour. Et globalement, ils feront sans doute un score comparable. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de différence pour le public de droite. Je peux me tromper, hein, mais j'ai pas l'impression que fondamentalement, ils ont tous des qualités et des défauts d'ailleurs qui sont semblables, hein, et des parcours politiques aussi qui sont très parallèles. Ils ont été souvent ministres de Nicolas Sarkozy, ils sont présidents de région, c'est vrai pour Laurent Wauquiez, c'est vrai pour Valérie Pécresse, c'est vrai pour Xavier Bertrand. Donc c'est à la fois des... Comment dire ça sans être péjoratif ? Ils sont entre le second et le premier rôle. Hein, ils n'ont jamais été premier rôle, ni premier ministre, ni président de la République, mais c'est des seconds rôles plus quand même, vous voyez ?
D'accord. Mais après, si vous voulez, je fais quand même une différence entre Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand. Pour moi, Éric Ciotti, il est quand même plus à droite que, si vous voulez. Pour moi, il y a une tendance qui est aile gauche de LR, qui est incarnée par les trois que j'ai cités. Et Éric Ciotti, pour moi, c'est quand même celui qui incarne le mieux l'aile droite de LR. Et quand on regarde cette déclaration, mais aussi ce qu'il a fait quand il était député, certaines lois contre l'absentéisme scolaire, c'est lui, c'est lui qui a été à l'origine de certaines mesures polémiques qui reviennent un peu aujourd'hui. Vous savez, par exemple, priver certains parents d'allocations familiales, etc. C'est quand même des mesures qui font partie de l'aile droite LR, voire qui auraient pu, il y a 15-20 ans, être proposées par le Front National, quand même. Donc, pour moi, Éric Ciotti fait quand même partie, se distingue des trois autres, quand même, pour moi.
Non, mais vous avez raison. Il est plus à droite avec Laurent Wauquiez. C'est l'aile droite des LR. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison.
Les trois autres sont un peu les variants LREM, sans mauvais jeu de mots, quoi. Mais voilà, mais c'est ça.
Vous êtes électeur, vous-même, LR ?
Alors non, si vous voulez, moi je suis pas électeur LR. Moi, pour tout vous dire, j'attends comme de plus en plus de jeunes autour de moi, j'attends une éventuelle candidature de Monsieur Zemmour.
C'est intéressant ce que vous dites parce que j'étais en province pendant un mois et demi. Le nombre de gens qui sont venus me dire est-ce qu'Éric Zemmour se présente. Alors peut-être parce que aussi je travaille sur une chaîne et sans doute même parce que je travaille sur une chaîne sur laquelle il est présent. Mais c'est vrai que j'étais très frappé de ça, de combien il suscite l'intérêt. Alors, ça ne veut pas dire l'adhésion, hein, l'intérêt, loin de là. Mais on a le sentiment que s'il se présentait, il sera un curseur de la campagne où chacun devrait se déterminer par rapport à ce qu'il dit, alors que Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand peut-être impriment moins.
Bah, si vous voulez, je pense que Éric Zemmour ferait voter pas mal d'abstentionnistes, si vous voulez. De gens qui ne se sont plus représentés, à droite évidemment.
Mais il repousserait peut-être aussi des électeurs ou des membres des Républicains. Vous voyez, il a aussi un côté repoussoir.
C'est vrai. Quand on regarde les sondages, c'est vrai, c'est ce qu'il se dit. Il ne prendrait pas beaucoup de voix à Marine Le Pen. Mais il prendrait certains abstentionnistes et l'aile droite de LR, oui.
Moi, j'ai posé la question tout à l'heure à Benjamin Sportiche. S'il se présentait, est-ce qu'il pourrait se présenter à la primaire LR ? Parce que j'ai le sentiment parfois qu'Éric Zemmour, il incarne les valeurs du RPR aussi, en tout cas, pas que ça, mais les valeurs du RPR des années 80. Et qu'il percute cet électorat des RPR tendance droite, quoi. C'était la tendance Pasqua ou la tendance même Seguin sur certaines choses.
C'est ça, oui. Oui. Bah écoutez, c'est ce qu'on attend. Il a dit qu'il allait faire une annonce d'ici la rentrée. Bah, on verra. Mais moi, pour répondre à votre question de base.
Il sort un livre le 15 septembre. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'il se présente. Si tant est qu'il se présente, je ne suis pas sûr qu'il se présente tout de suite.
D'accord, oui. Après, pour répondre à votre question de base, moi, je pense que si je devais voter, je choisirais Éric Ciotti personnellement. C'est celui qui se démarque le plus.
Donc vous êtes plutôt à droite, très à droite, vous. Bah, très à droite, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais conservateur.
Avec les autres, avec les trois autres.
Bah merci beaucoup Théo, merci. Merci beaucoup. Il est 13h46. Je vois que Jean-Alphonse Richard est là. Il viendra vers 13h55 nous annoncer le programme de 14h30. C'est l'heure du crime désormais tous les jours.
et c'est passionnant. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je précise que le vaccin Janssen, qui a démarré en France le 24 avril, est limité aux adultes de 55 ans. Et tout à l'heure, j'ai omis sans doute de poser la question à Faisal et il n'a pas 55 ans. Donc je l'ai induit en erreur en lui disant qu'il pouvait se faire vacciner, Faisal, avec le Janssen. Et le Janssen, effectivement, s'il n'a pas 55 ans, il ne peut pas. Donc je lui ai dit une bêtise et je lui demande vraiment de me pardonner. Laurent Tessier.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au 3210 3210. Combien vous coûte un plein en ce moment ? Les prix à la pompe sont repartis à la hausse ces dernières semaines.
Plus d'1,40€ le litre de diesel, autour d'1,60€ pour le sans-plomb. On est entre 12 et 16% d'augmentation depuis le début de l'année.
Et un constat sans appel pour l'économiste Philippe Chalmin, invité hier soir dans Défait le Monde avec Cyprien Signy.
On revient au niveau de 2018. On a assisté à une remontée du prix du pétrole. Il y a eu un peu d'euphorie liée à la reprise économique mondiale.
Quels sont les prix des carburants dans votre station essence ? Quelles sont vos conséquences sur votre activité professionnelle ? Ces infirmières rencontrées par Dimitri Ramelot près de Nancy et à Metz subissent de plein fouet cette augmentation.
Ma voiture, c'est mon bureau. Donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais à une cinquantaine d'euros le plein. Et là, on a dépassé les 60 facilement, quoi. Et les indemnités de prestations de soins n'ont pas augmenté, elles.
Je prends ma voiture exclusivement pour aller au travail. Parce qu'en fait, je calcule, je me dis si je vais ailleurs, entre-temps, ça revient super cher.
Combien vous coûte un plein en ce moment ? 3210, 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
Gabriel Attal est en train de s'exprimer, c'est le porte-parole du gouvernement. Il a annoncé que la rentrée aux Antilles était décalée au 13 septembre et il a dit que la vaccination, la sous-vaccination aux Antilles faisait des ravages. S'il dit évidemment quelque chose susceptible de nous intéresser, Laurent Tessier, vous nous rapporterez ses paroles. Nous sommes sur le débat de la primaire et nous sommes avec Dominique qui est avocat. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Avocat au masculin, manifestement.
Oui, tout à fait. J'étais déjà intervenu sur LR avec vous, Pascal, où je disais que je ne savais plus où j'habitais avec des possibilités d'alliance avec LREM.
Et vous êtes contre la primaire. Pourquoi ?
Je suis tout contre, mais non, tout à fait contre, résolument contre, parce que ces candidats, déjà, ce sont des seconds couteaux. Ils m'enthousiasment absolument pas.
Et c'est un peu surtout péjoratif, second couteau. Moi, j'ai dit qu'ils étaient entre le second rôle et le premier rôle. Ils sont présidents de région, non, ils ont été ministres de Sarkozy. C'est un peu péjoratif.
Peut-être, mais en tout état de cause, il n'y en a pas un que l'on considère comme étant vraiment, vraiment se détachant et de premier plan.
C'est vrai.
Et surtout, c'est aussi, blanc bonnet blanc, ils sont du même parti, ils sont de la même famille.
Ah bah c'est le principe, oui.
Pratiquement la même ligne.
Bah c'est plutôt bien ça, généralement, quand t'es... Oui, mais après, il y a des personnalités différentes, il y a un charisme différent, entre Ciotti quand même et Xavier Bertrand.
Le charisme différent, justement.
Xavier mais alors, c'est quoi votre position ?
Se mettre hors de... Moi, je vais voter pour Xavier Bertrand parce qu'il se met hors du jeu et que ça me semble être un candidat naturel qui se dégage à droite. C'est quelqu'un qui a été ministre, qui est aussi président de région comme
président. Mais c'est un second couteau pour vous, Xavier Bertrand ?
Pardon ?
C'est un second couteau pour vous, Xavier Bertrand ?
Non, justement, c'est précisément la raison pour laquelle il n'a pas à s'abîmer dans une primaire.
Il a le même primaire... CV que le Wauquiez, il est président de région, il a été ministre de Sarkozy et il est un petit peu plus vieux. Qu'est-ce qu'il différencie ?
J'ai un petit avantage sur vous, c'est que Xavier Bertrand, je connais à titre personnel, c'est un ami. Et donc du coup, il a été mon responsable délégué jeune RPR dans les années 80, et donc j'ai vu comment il pouvait être.
Donc c'est de la propagande, parce que vous prenez le 3210, mais c'est honnête en même temps, mais si c'est votre pote, évidemment, moi je comprends.
On peut aussi bien parler d'un ami sans que ce soit de la propagande.
Non mais je comprends, mais si c'est un ami, vous auriez dû commencer par ça, en nous appelant, dire voilà, je suis ami de Xavier Bertrand, les autres sont nuls, et moi je vais voter pour Xavier Bertrand.
Mais pas du tout, oui mais c'est un peu réducteur ce que vous me dites là, c'est pas du tout dans ce genre-là, que Xavier soit un ami ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte sur le fait qu'une primaire ne me semble pas nécessaire. Bon. En tout état de cause, en plus, ils vont s'abîmer dans cette primaire, c'est-à-dire qu'ils vont se critiquer pour ensuite se réconcilier, se rabibocher. Pardon,
mais elle n'est pas acquise, cette primaire. Elle n'est pas actée, je le répète bien. C'est pas acté. Christian Jacob n'en veut pas.
Ah ben tant mieux, grand bien lui fasse. Parce qu'effectivement, déjà je doute qu'il y ait beaucoup d'électeurs à cette primaire. Il y a eu un effet de nouveauté en 2017 à droite. J'avais voté Fillon d'ailleurs à la primaire de 2017. Mmh. Et puis, mais maintenant, on a vu ce que ça donnait. L'échec de Fillon n'a rien à voir avec la primaire. Mmh. Mais en tout état de cause, nous avons des gens qui se sont affrontés et qui après se remettent, se réconcilient sur un même candidat. Donc c'est un peu un jeu de dupes.
Non mais là où vous avez raison, je pense que le public de droite rêve que tous ces gens se mettent dans une salle et sortent et se mettent d'accord tous ensemble, ouais, sur un candidat. Parce que là où vous avez raison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, voilà, exactement, là il n'y a pas beaucoup de différence entre les uns et les autres. Merci Dominique, restez avec nous de toute façon parce qu'on va poursuivre ensemble sur ce thème de la primaire, mais je l'ai dit à 13h55 tous les jours, Jean-Alphonse Richard vient nous donner le programme de l'heure du crime. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Aujourd'hui,
la disparition du petit Matisse. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est il y a 10 ans exactement, quasiment jour pour jour. Vous connaissez les enlèvements intrafamiliaux, un père qui enlève son fils, une mère qui enlève son fils, ça arrive quasiment tous les jours en France. Mais celui-ci, cet enlèvement-là, il est catastrophique, teinté de sadisme et de cruauté. C'est le père, Sylvain Joanneau, qui a enlevé son fils il y a 10 ans. Pendant 3 mois, il va y avoir une cavale. Toutes les polices de France et de Navarre vont être aux trousses de ce père qui détient son fils dans un camping-car, puis dans une voiture. On va finalement retrouver Sylvain Joanneau, le père, mais on ne retrouvera jamais Matisse, le fils. Mais le père, Sylvain Joanneau, va garder le silence. Il est toujours muré aujourd'hui dans une forteresse de silence. Il n'en sort pas. Il n'a jamais dit ce qu'il avait fait de son fils. On ne sait pas aujourd'hui, sa mère, qu'on aura tout à l'heure dans l'heure du crime, attend depuis 10 ans d'avoir la vérité, d'avoir des nouvelles sur ce qu'est devenu Matisse. Est-il mort ou est-il vivant? C'est le combat d'une mère et c'est un fait divers d'une extrême cruauté. On va le raconter à 14h30 dans l'heure du crime jusqu'à 15h30.
Et où est le père aujourd'hui?
Il est en prison. Il a été jugé. Il a pris 20 ans de prison. Il est en prison, mais le silence perdure. Il est dans sa cellule, tout seul, et il ne dit rien.
L'heure du crime, tous les jours à 14h30. Est-ce que cette année, vous irez parfois dans des événements qui ne sont pas forcément contemporains?
Ah oui, bien sûr, ça nous arrive. On avait fait déjà l'affaire Landru, etc. Il nous arrive évidemment de remonter le fil de l'histoire et de prendre des grandes histoires du passé sans problème, évidemment.
Merci.
Tout est ouvert dans l'heure du crime.
Merci Jean-Alphonse. Il est 13h56. La pause, le flash, la primaire, on continue.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Il est 13h59, on est un peu en avance. On va poursuivre évidemment le débat sur la primaire. Dominique était là dans une seconde, mais le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
Pour Angela Merkel, la communauté internationale doit continuer à dialoguer avec les talibans pour préserver les acquis de ces 20 dernières années. En une semaine, la France a pu évacuer 2500 personnes. Sachez que l'homme qui avait été placé sous surveillance dès son arrivée à Paris et arrêté car n'ayant pas respecté son assignation à résidence, eh bien ce réfugié va être jugé en comparution immédiate cet après-midi. Autre comparution immédiate à venir, dans un tout autre domaine, celle de l'homme auteur d'un coup de pied en direction de Dimitri Payet dimanche lors du match Nice-OM. Ce supporter niçois de 30 ans avait été interpellé lundi et placé en garde à vue. C'est également aujourd'hui que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se penche sur ces incidents avec l'audition des représentants des deux clubs. À condition que suffisamment de pays soient vaccinés, grâce aux médicaments qui devraient arriver en fin d'année, le bout du tunnel de l'épidémie de Covid-19, ce sera courant 2022. C'est le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, qui le dit. En attendant, le professeur d'immunologie interrogé chez nos confrères de France 2 recommande la plus grande prudence avec les retours de vacances et la rentrée scolaire. La rentrée scolaire aux Antilles, elle est reportée au 13 septembre en raison de la situation sanitaire. Les chiffres du chômage poursuivent leur recul au mois de juillet. 60 100 demandeurs d'emploi en moins, soit 1,6% de baisse par rapport au mois de juin. En tennis, Serena Williams, forfait pour l'US Open. La joueuse annonce sur son compte Instagram être blessée à la jambe droite. La météo demain, retour des nuages sur un tiers nord. Nuages et quelques averses en prime. Partout ailleurs, ce sera encore une journée chaude et ensoleillée. Les courses ont lieu en nocturne à Vincennes. Je vous rappelle les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 10, le 3, le 6, le 14, le 8. Et là, dernière minute, le 6, Esliska Berry. 14h01, pile,
merci
sur RTL.
Agnès. On vous retrouve à 15h. Pas de nouvelles d'Mbappé. Il est toujours au Paris Saint-Germain.
Dès que je sais, je vous dis. Hein,
il n'y a pas une nouvelle offre qui est arrivée au-dessus de 160
millions d'euros. Toujours pas. On attend. Bien on sûr. Suit ça.
Il est 14h01.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Dominique, qui nous appelle, donc, qui est donc l'ami de Xavier Bertrand.
L'unique.
Ben non, mais pas l'unique, bien sûr. Et vous avez travaillé avec lui, hein, c'est ça, disiez-vous ?
Oui, il était mon délégué jeune RPR à Saint-Quentin, en Picardie, dans les années 80.
Mais c'est marrant ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes un ancien du RPR, je disais que si Éric Zemmour se présentait aujourd'hui à la primaire des Républicains, j'ai le sentiment qu'il aurait des voix et peut-être en prendrait-il peut-être davantage aux Républicains qu'au Rassemblement National. Vous qui avez connu ce RPR des années 80, vous pouvez faire cette analyse ?
Je fais tout à fait cette analyse. Vous avez une analyse tout à fait pertinente. Autour de moi, j'ai des personnes qui sont sympathisantes, anciens RPR et maintenant LR, qui se laissent séduire par le discours d'Éric Zemmour en disant justement « on n'a pas de personnalité aussi forte que lui à droite ».
Ben merci Dominique pour ce témoignage et on va parler des carburants dans une seconde, mais peut-être un dernier témoignage justement ou une dernière opinion avec Rock. Bonjour Rock, Éric Ciotti qui s'est présenté ce matin, c'est RTL qui révélait cette information, il veut se présenter à la primaire. Quel est votre sentiment ?
Eh ben écoutez, pourquoi pas après tout, ça fera quelqu'un de, on va dire, de vraiment à droite qui se présente dans cette primaire. Et puis c'est quelqu'un qui peut faire peut-être le pont un peu plus entre le parti Les Républicains et le Rassemblement National ou Éric Zemmour.
C'est quoi quelqu'un, vous avez 25 ans, vous avez dit vraiment à droite, c'est quoi pour vous être de droite ?
Alors je précise vraiment à droite parce qu'aujourd'hui le sens droite est un peu perdu de son sens, mais pour moi la droite eh ben, c'est l'ordre, l'identité, les libertés économiques... la défense peut-être un peu de le conservatisme sur la société, à peu près tout ça, quoi.
Donc, mais moi, j'ai le sentiment que ça, il y a beaucoup d'hommes politiques, de droite comme de gauche, d'ailleurs, qui reprennent ces valeurs-là. Et Xavier Bertrand, si vous lui dites l'ordre, la sécurité, il achètera ?
Ouais, sauf que Xavier Bertrand est plus crédible, à mon sens, pour parler de tout ça, parce que... Il était ministre de Sarkozy. Sous Sarkozy, l'immigration a augmenté. En tant que ministre de la Santé, il a supprimé des lits. Il s'est vraiment décrédibilisé quand il a été à l'action. Et aujourd'hui, quand il parle, il n'a aucune sincérité, je trouve. Et c'est que dans le discours et souvent avant les élections, quoi. Il ne faut pas oublier quand même, il a quitté le parti LR parce qu'il le considérait trop à droite, entre guillemets.
Donc votre candidat préféré, c'est Éric Ciotti.
Alors si jamais je devais voter à cette primaire, oui, moi je serais plutôt un soutien d'Éric Zemmour, Marine Le Pen ou même Marion Maréchal.
Vous trouvez que par exemple entre Marine Le Pen, le Rassemblement National et Éric Ciotti, il y a des passerelles ?
Ah bah, qu'est-ce qui les différencie ? Pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Si ce n'est le parcours politique, mais dans le discours, en tout cas, Éric Ciotti se rapproche vraiment du Rassemblement National. Après, d'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi il est encore aux Républicains. Il aurait dû faire le même chemin que Jean-Paul Garot, Thierry Mariani ou des gens comme ça.
Et vous, quel chemin vous avez fait ? Parce que 25 ans, vous avez voté combien de fois à une présidentielle ? Vous n'avez voté qu'une fois ?
Eh bien, j'ai voté qu'en 2017, oui, bien sûr. Oui.
Et vous aviez voté, alors au deuxième tour, vous aviez voté, si je comprends bien, si je devine, vous aviez plutôt voté Marine Le Pen.
Oui, tout à fait, au deux tours même, je peux vous l'avouer avec fierté.
Et là, c'est
bien que
Bien que cette fois-ci, je vous avais appelé il y a quelques temps plus tôt pour défendre Marine Le Pen face à Éric Zemmour. Je suis encore un peu partagé, j'ai pas fait mon choix, mais entre les deux, il y a vraiment aussi une feuille de papier à cigarette en termes de discours. Mais bon, voilà, c'est le style Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Marion Maréchal.
C'est-à-dire que cette fois-ci, vous n'êtes pas certain quand même de revoter Marine Le Pen, c'est ce que vous me dites.
Si Éric Zemmour n'est pas candidat, et que Marine l'est, je voterai plutôt Marine Le Pen.
Ah, mais si Éric Zemmour est candidat, vous préféreriez voter Éric Zemmour que Marine Le Pen ?
Je commence à me poser sérieusement la question. Ouais. Je suis pas certain encore, mais le débat se posera en tout cas.
Mais alors pourquoi ?
Parce que la gestion interne du Rassemblement national semble quand même être faite de manière un peu pas dictatoriale, mais de manière pas forcément sans prendre en compte les conditions du terrain. Et puis en termes d'idéologie, le discours se lisse de plus en plus. On parle d'alternance plutôt que de rupture.
Donc vous trouvez que Marine Le Pen n'est pas assez à droite?
Eh ben, je ne sais pas si elle, mais en tout cas son entourage, a priori, ne l'est pas assez. Et voilà.
C'est intéressant toujours d'écouter un électeur, hein, bien évidemment, et un électeur de gauche aussi d'ailleurs. C'est toujours intéressant de voir la motivation des électeurs, pourquoi ils votent et ce qu'ils peuvent apprécier au sein de leur parti. Bah, merci pour votre franchise.
L'idéal, ce serait une candidature unique de quelqu'un qui représente vraiment et qui assume l'héritage qui va de Jean-Marie Le Pen à Charles Pasqua.
Oui, mais alors là, c'est compliqué, parce que Jean-Marie Le Pen, vous demandez à quelqu'un qui a toujours combattu le général de Gaulle d'être avec Pasqua, qui était un gaulliste pur et dur. Donc vous voyez, c'est l'héritage, le Rassemblement National, c'était le parti le plus opposé, c'était un parti anti-gaulliste.
Sur la question d'Algérie seulement.
Ben c'est une question importante, l'Algérie. Hein. C'est pas rien. Mais il y avait... disons-le aussi, ça c'était au départ en 72, à la fondation du Front National, beaucoup de gens qui avaient été dans l'entourage du maréchal Pétain, qui, comme chacun sait, était l'opposant numéro un du Gérald de Gaulle. Donc vous voyez...
Certes, mais si on reprend aujourd'hui tous les sujets qui nous occupe aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen les avait vus et annoncés depuis 40 ans. Alors avec ses peut-être certains excès, bien que je pense qu'ils ont été exagérés. Mais bon, honnêtement, aujourd'hui, en 2021, entre le discours qu'avait Jean-Marie Le Pen et celui qu'a Éric Ciotti aujourd'hui, Zemmour ou Marion ou Marine, il n'y a pas de différence. Donc il faut que ces gens s'entendent pour qu'il y ait une unique candidature qui nous représente.
Je pourrais entendre ce que vous dites, mais je ne peux pas entendre que les... Que ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen a été exagéré lorsqu'il a notamment s'est exprimé sur le détail. C'est lui qui avait dit ces mots-là qui étaient effectivement qui ont provoqué une cassure très grande dans l'opinion publique, pas que l'opinion publique bien sûr, aussi parmi ceux qui le suivaient et qui l'ont vu d'une manière différente, bien sûr, parce que dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, c'était ses mots à lui. Hein, il n'y avait pas d'exagération dans les commentaires.
Et la prévision qu'il a eue pour le reste. Quoi. Voilà.
C'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut avancer avec nuance sur ces sujets. Et on peut entendre aussi ce que vous dites. Merci en tout cas, Rock.
Merci à vous, Pascal.
Ben, j'entends un bébé, j'ai l'impression, derrière vous. Non,
oui, un petit Marius de 8 mois. Ouais.
Ah, Marius. Ça, c'est un joli prénom, Marius.
Mais pas forcément un prénom du Sud.
Non, mais écoutez, alors je vais vous faire une confidence, Rock. Mon grand-père s'appelait Marius et il était né en Vendée. Donc, vous voyez, il était né le 20 août 1907, figurez-vous.
D'accord.
Donc, il aurait eu 21 et 93, il aurait eu 130 ans. Non, c'est bien ça, hein, je crois, 130 ans, ce 20 août. Donc, voilà, donc, mais c'est un magnifique prénom, Marius, bien sûr.
Merci
c'est un prénom qui était beaucoup donné dans les familles catholiques et chrétiennes, bien sûr.
Oui, merci. En tout cas, sur les mois du mois de 14, il y a beaucoup de Marius.
Voilà. Exactement, merci beaucoup, Rock. Et la pause, on va parler des carburants, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur... Comme. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous sommes donc avec Laurent Tessier. On devait pas faire un petit tour vers Facebook ?
Ah bah si, bah allons-y.
Eh bien Olivier, il nous entend, Olivier.
Bien sûr, je vous entends Pascal, bien sûr.
Pour Thierry, une primaire à droite, c'est une très mauvaise idée. Rien de mieux pour diviser un électorat. Anne nous dit une primaire, pourquoi pas, mais alors uniquement réservée aux adhérents LR pour avoir un candidat représentatif. Jean-Claude lance sur notre page Facebook, oui, j'irai voter, mais il y a trop de candidats et c'est perturbant. Pour conclure, selon Denis, Éric Ciotti est l'homme de la situation, Pascal.
Et on peut parler aussi football dans l'émission. Et l'avenir de Kylian Mbappé ira-t-il au Real Madrid ?
Le club madrilène a proposé 160 millions d'euros pour recruter l'attaquant français, offre rejetée par le PSG.
Une nouvelle offre du Real Madrid va-t-elle être sur la table ?
Oui, c'est une possibilité, clairement, et on s'y attend. D'ailleurs, dans les rangs parisiens, sans doute à hauteur de 180 millions d'euros, le Real Madrid a voulu frapper fort d'emblée. 160 millions, c'est une base élevée pour marquer les esprits, afficher sa volonté.
Le PSG doit-il accepter une nouvelle offre du Real pour Kylian Mbappé ? L'attaquant français doit-il quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre le club espagnol ? Votre avis dès maintenant au 32-10, 3-2-1-0.
Et évidemment, quelqu'un qui est né en 1907, il n'aurait pas eu 130 ans en 2021, mais 114 ans.
Bonne rectification.
Voilà, je rectifie, mais je suis manifestement, j'ai pas très bon.
Vous êtes bon en mathématiques.
Hein, manifestement, non. Alors, les carburants, ça c'est intéressant, parce qu'on sait que la hausse des carburants a provoqué, il y a trois saisons, le mouvement Gilets jaunes. Et le carburant est en train de monter. Nous sommes avec David qui est chauffeur routier. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous remarquez sur le terrain et dans les stations-service ?
Bah là, pour l'instant, il avait remonté, mais là, il a descendu un petit peu de 3 centimes. Il était à 1,41 € le mois dernier, et là, en ce moment, il y a 1,38 € à la station, donc il descend là.
Donc il n'y a pas encore d'inflation maximum.
C'est déjà avant le, il y a deux mois, c'était moins cher. Il a remonté, là, il a redescendu un petit peu, mais c'est mieux reculé pour mieux sauter en fait. Donc ça devient un luxe le carburant. C'est un luxe. Et d'ailleurs, je me pose la question si ça vaut bien le coup encore de rouler au gasoil, à l'essence, parce qu'en fait, ils avaient dit que le prix du gasoil, mais à chaque fois qu'ils augmentent le prix du gasoil, ils augmentent aussi le prix de l'essence. Donc ils disent, ouais, il ne faut plus de voitures au gasoil parce que ça pollue. Et au final, à chaque fois, au lieu d'augmenter le gasoil, ils augmentent tout en même temps. Donc, c'est un peu bizarre.
C'est-à-dire qu'il est monté. Alors, il est à 1,40 €, vous avez dit, ça c'est quoi ? C'est le sans-plomb ?
Non, ça c'est le gasoil.
Ça, c'est le gasoil qui est à 1,60 €.
Là, il a un, ici, à la station, il est à 1,37 €. Là, le sans-plomb, il est à 1,58 € et 1,50 €.
Et dans Paris, ce qui est extraordinaire, je le dis souvent, hein, dans Paris, vous pouvez rajouter 20 ou 30 %. Hein, les stations-service, je le paye 1,90 € de temps en temps quand je suis dans Paris. C'est très, très cher, l'essence.
C'est normal, mais c'est cher Paris.
Oui, c'est normal, mais bon, quand vous passez à la pompe, un plein, vous êtes à, si vous avez une voiture importante, j'imagine qu'un plein, aujourd'hui, on doit être à 120 ou 130 euros le plein.
Après, il faut voir aussi le tarif aussi de fabrique. Parce que quand vous livrez des stations, des trucs comme ça, d'après ce que j'entends parler, mais une citerne, a priori, c'est 80% de taxes.
Alors, déjà, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de le surveiller, cette essence, comme le lait sur le feu, parce que c'est ce qui avait déclenché les mouvements il y a trois saisons. Alex est avec nous. Alex, qui est chauffeur routier également. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Comment allez-vous ?
Eh bien, écoutez, ça va très très bien. Vous êtes chauffeur routier international ?
Tout à fait.
Toujours. Vous êtes où là ?
Eh bien, là, je suis au Luxembourg. Je m'apprête à rentrer chez moi. Pour une fois, je suis tranquille. Je rentre chez moi en Allemagne. Là, dans une demi-heure, je suis chez moi à Trassem, dans le Rheinland-Pfalz.
Donc, aujourd'hui, vous êtes dans combien de pays européens différents ?
Alors, moi, je fais le Luxembourg, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie. Je fais aussi l'Italie.
Donc, et la France, un peu ?
Non, la France, on n'y met pas trop les roues parce que c'est une honte, quoi. Je veux dire, entre le prix du péage et le prix du gasoil, on évite ce genre de choses, quoi. C'est hors de question.
Non, mais parfois, on n'a pas le choix, vous êtes marrant. Vous n'avez pas de clients en France ?
Non, mais on choisit nos clients. On fait en sorte de faire un transport entre l'Italie et le Luxembourg, entre l'Italie et la Belgique, par exemple. On ne transite pas du tout par la France, quoi.
Mais où est-ce que l'essence est le moins cher aujourd'hui ?
Alors, en Slovénie et en Luxembourg.
Et vous payez combien le litre ?
Alors, le gasoil, on est à 1,21€ pour le gasoil. Et pour le super, là, j'ai fait mon plein il n'y a pas très longtemps au Luxembourg avec ma voiture, on est à 1,30€.
Ça, effectivement, c'est un peu moins qu'en France. Mais vous ne trouvez pas quand même que l'infrastructure en France, notamment les autoroutes, vous avez parlé des péages tout à l'heure, c'est vrai que c'est un inconvénient, mais moi je suis toujours frappé quand même quand je vais en Allemagne ou quand je vais en Italie, les autoroutes sont moins agréables que les autoroutes françaises.
C'est des autoroutes qui sont beaucoup plus anciennes, on en avait déjà parlé, des autoroutes qui sont beaucoup plus anciennes, des autoroutes qui sont en rénovation, il y a des autoroutes qui sont bien pourries, des autoroutes qui sont toutes neuves. Il faut laisser le temps au temps. Hein.
Oui, mais donc, en France, au moins, on a un parc d'autoroutes qui est plutôt agréable.
Oui, mais je vous rappelle que l'autoroute est gratuite. Tout est relatif. Pour les poids lourds, on paye une taxe kilométrique qui s'appelle le MAUT. Mmh. Donc, c'est à peu près 15 centimes le kilomètre. Donc, c'est plus ou moins le même prix qu'en France. Mais par exemple, moi, pour ma voiture, je paye une taxe annuelle de 300€. Et je peux aller de chez moi à Berlin chez moi, gratuit. Voilà.
Non, mais ça, c'est vrai que. Mais en même temps, moi, j'avais été frappé à chaque fois en Allemagne, en Italie, du nombre de travaux qui existent sur ces autoroutes et qu'à l'arrivée, le déplacement devient extrêmement lent parce que t'es freiné tous les 40 km sur une voie.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je voudrais élever un peu le débat, si vous me permettez, Pascal. Non, je voudrais élever le débat et prévenir les gens. Parce que qui dit augmentation de gasoil dit augmentation de coûts de transport. Nous, on s'en fout, les transporteurs. Vous savez, le gasoil, ils peuvent être à 10 euros le litre. Il y aura toujours besoin de camions. Donc, le prix de transport va être adapté au coût du gasoil. Et le prix de transport va exploser, va augmenter. Et au final, c'est le consommateur final qui va payer. Parce que tout va augmenter. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est la stricte réalité. On a eu une augmentation. Je vais vous donner un exemple parce que je suis un peu dans les chiffres. Je fais quelques cotations pour mes clients. On a une augmentation de 4% de nos prix de transport actuellement. 4%. Alors, c'est pas grand chose pour 25 tonnes déplacées, hein. On est de l'ordre de 30-40€ supplémentaires de coûts de transport. Mais si ça continue comme ça, ça risque d'exploser. Vous comprenez les prix?
Bien sûr.
On roule pas à perte, nous, les transporteurs. C'est pas possible. Sinon, on met la clé sous la porte. Mais vous allez voir que ça va être une augmentation de 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes sur un pot de yaourt, sur une salade, mais sur le panier moyen de la ménagère, hein, comme ils aiment bien appeler, eh ben, ça va être un, deux, trois euros de plus. Parce que le transport va augmenter. Ça, il faut en prendre en compte aussi, hein. Il n'y a pas que la pompe. Quand on se rend à la pompe, oui, c'est cher, mais vous allez voir que tout va augmenter. Et ça, c'est une triste réalité.
Ben merci beaucoup, Alex. On voulait faire, et puis bon courage, on voulait faire effectivement un petit chapitre, mais vous allez être bientôt chez vous, si j'ai bien compris.
Dans 30 minutes, et je repars demain matin à 3h du matin.
Eh ben, écoutez,
pour aller en Allemagne, justement, dans la région de la Ruhrgebiet.
Il y a quelque chose que je trouve très sympathique chez les chauffeurs routiers, c'est que vous êtes libre et qu'il y a une forme d'indépendance dans ce que vous faites et qui peut être agréable.
Ah ben c'est pour ça qu'on fait ce métier-là.
Je pense qu'effectivement,
depuis presque 20... Attendez, bougez pas, j'ai 44 ans, j'ai commencé à 18 ans. Vous voyez, bah vous calculez, ça fait 26 ans.
Mais je ne suis pas étonné du plaisir qu'on peut avoir à conduire et avoir cette liberté surtout.
Le plaisir, Pascal, si je puis me permettre, il est autre qu'il y a 20 ans en arrière.
Ah oui?
Il est autre. Hein. Ah, il est autre. Hein. Entre les contrôles routiers, les contrôles douaniers, les contrôles de police, les ci, les ça, la circulation qui ne cesse d'augmenter, les infrastructures qui ne suivent pas, vous savez, c'est pénible. Hein. Les deadlines qu'il faut respecter, les rendez-vous qu'il faut respecter, ça devient pénible. Hein. C'est plus comme il y a 20 ans.
Merci Alex. On va parler de Mbappé dans une seconde. Il y aura également le débrief de Laurent Tessier. Il est bientôt 14h30 avant Jean-Alphonse Richard. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Vous savez que le Paris Saint-Germain a refusé une offre de 160 millions pour Mbappé. Le record pour un transfert, c'est Neymar. Lorsqu'il était venu au Paris Saint-Germain, c'était 222 millions d'euros payés à Barcelone. Peut-être que Mbappé battra ce record. Nous sommes avec Jean-Paul qui est coach dans le Pas-de-Calais.
Bonjour Pascal.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, c'est à vous qu'il faut demander ça, le vacancier.
le vacancier. La première semaine, vous savez que c'est souvent la plus dure. Parce qu'il faut retrouver le rythme.
Oui, bah c'est clair, oui, oui. Le Ripa n'a rien faire, aussi, c'est bien.
Mais non, mais on est très... Alors, évidemment, on est très heureux d'être là, mais en même temps, on se dit, voilà, j'étais au soleil, j'étais bien, j'étais avec... mon amoureuse, j'étais avec mes enfants, j'étais... voilà, la
et
vie était belle.
Et pour vous, sans polémique.
Voilà, il n'y a pas que la télé, la radio, toujours dans la vie. Donc on peut être heureux sur une plage.
Bah, je pense, j'espère pour vous.
Et moi, j'ai une propension à ne rien faire qui me sidère, si vous voulez. Donc je vous mettez...
Je suis bien dans ce rôle-là aussi. Moi,
voilà, vous mettez sur une plage au soleil, ça peut très bien, ça peut, je peux passer des heures entières.
Ouais, et puis en plus on fait le vide, ça fait du bien.
Ah oui, bah, je suis d'accord avec vous. Jean-Paul, vous souhaitez qu'il reste en France ou qu'il s'en aille, Mbappé ?
Il faut qu'il s'en aille, Kylian.
Ah ouais, mais pour notre championnat, c'est pas mal quand même qu'il reste.
Bah, on vient de récupérer Messi, alors... non, mais sincèrement, je pense que Kylian Mbappé, il va progresser encore plus au Real de Madrid. À Paris, il y a trop de stars. Je pense qu'il a été pollué complètement par Neymar. Et je pense que c'est le bon moment. Il faut qu'il y aille. Parce que là, il va y avoir trop de problèmes d'ego. Et je plains Pochettino dans le vestiaire. Ça va être infernal. Qui va tirer les pénaltys? Qui va tirer les coups francs? Et puis si, et puis ça. Et qui va être ballon d'or? Non, mais non. Mbappé, qu'il aille au Real, il sera tranquille. Il sera entouré aussi de grands joueurs. Et il y a un super coach aussi qui est là. Donc, ouais, il faut qu'il y aille. Et je crois que c'est le moment. C'est l'heure. C'est l'heure pour lui d'y aller. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Pascal.
Bah, je suis partagé. Ce que vous dites, ça s'entend, c'est des excellents arguments. Mais je pense égoïstement à RTL, par exemple, à l'ami Christian Olivier, lorsqu'il fait le multiplex. Je pense aux journalistes de la maison. C'est vrai que d'avoir un produit avec Mbappé, ton produit est meilleur. S'il s'en va, le championnat de Ligue 1 est moins reluisant. Et moi, j'ai envie de voir Mbappé avec le Paris Saint-Germain dans un match du championnat de France. J'ai envie de le voir avec Messi, d'ailleurs. J'ai envie de le voir avec Neymar. J'ai envie de les voir tous les trois ensemble.
Ouais, je suis partagé, moi, sur ça. Après, vous savez, la carrière de footballeur, elle est quand même courte, relativement courte. Moi, je pense qu'il est encore jeune, il a 22 ans. Il faut qu'il vive. Rien ne l'empêchera de revenir en France après, qui sait. Mais là, je pense que la Ligue des Champions, il la gagnera avec le Real, pas avec le Paris Saint-Germain.
Il aura 23 ans au mois de décembre. Donc c'est vrai que les années... Une année, je crois que c'est Philippe Sanfourche qui disait ça l'autre jour, une année pour un footballeur, c'est une éternité. Hein. Ce qui est vrai, la carrière, elle dure... Alors elle dure quand même pas 10 ans, elle peut durer 15 ans. La preuve, Messi a 35 ans, Cristiano Ronaldo aussi. Mais en tout cas, c'est un choix pour Mbappé qu'il va devoir faire ses prochaines heures, sans doute, puisque la fin du mercato, c'est le 31 août.
Mais qu'il vienne au club... Nous, on l'accueille au club où je suis, avec grand plaisir.
C'est quel club, Jean-Paul ?
Ah, c'est l'Étoile Sportive de Saint-Laurent-Blangy. C'est juste un club, c'est un des plus grands clubs de la Rajoie, puisque nous avons 480 licenciés. En ce moment, on est confronté à ce fameux pass sanitaire qui nous cause énormément de problèmes.
C'est entendu, mais j'ai peur qu'il ne vienne pas tout de suite. Je vous coupe parce que figurez-vous que Laurent Tessier est venu dans le studio.
Ah oui.
C'est l'heure du débrief, il est 14h25. Merci Jean-Paul.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Et c'est surtout le sujet qui vous a fait réagir au 32-10. Faudra-t-il une troisième dose pour tout le monde? Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, en est persuadé.
On ira, je pense, à une troisième dose pour une grande partie de la population vaccinée. Troisième dose, une fois de plus, pour stimuler la réponse immunitaire.
Et Bruno se dit que c'est sans fin toute cette histoire.
Troisième dose, quatrième dose, cinquième, sixième, septième, c'est des rappels en vérité.
Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord.
Ouais, et Benoît partage le même sentiment.
Je suis complètement... j'en ai ras-le-bol, je vous le dis tout de suite, j'en ai ras-le-bol. Déjà, je ne vais plus au restaurant, je ne vais plus nulle part, même si je suis vacciné, parce que je ne cautionne pas tout ce qui se passe actuellement, cette histoire de passe sanitaire.
Et puis les candidats à une primaire de la droite, musique battle, Damien Béchiot, notre réalisateur. RTL, vous l'aurez révélé ce matin, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, va annoncer son entrée dans la course ce samedi. Mais la primaire, stop ou encore pour Jacques, électeur LR?
Pour moi, la primaire, c'est une machine à perdre. Ça divise. On va laver le linge en familier. C'est pas bien.
Mais qui pour représenter la droite? Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, d'autres candidats? Théo a défendu le principe de la primaire.
Dans le contexte actuel, oui. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de candidats de droite qui se dégagent naturellement actuellement.
Et vous le savez, Pascal adore parler de la météo, mais dans le journal de RTL Midi, on lui a annoncé une mauvaise nouvelle.
Le ciel sera bien couvert le matin, quelques trouées possibles dans la journée. Au nord de la Seine, une petite ondée ne sera pas
exclue. Pascal, c'est des experts.
Mais enfin, vous avez annoncé que c'était terminé, vous vous fichez de nous.
Mais non, c'est terminé pour un temps, mais ça reviendra, ce sera beaucoup plus lumineux.
Vous nous
avez annoncé,
j'ai pas rêvé, vous nous avez dit hier qu'il allait faire beau tout le temps dans le nord.
Pas tout le temps, Pascal, vous voyez comment vous... pour quelques jours.
Non, c'est pas possible. Et aujourd'hui, dans le journal, nous avions le plaisir d'avoir avec nous...
Monsieur Sportouche.
Eh bien voilà, vous m'avez réclamé.
Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL, et sa célèbre phrase l'an dernier...
Et elle sera ouverte, cette primaire? C'est-à-dire que n'importe qui peut se présenter ou c'est conditionné?
Eh oui, on ne sait pas. Autre question, Pascal, que vous avez posée aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on est certain qu'elle soit actée, primaire à droite? Ou est-ce qu'il y a encore une incertitude?
Non, je vais vous dire ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, j'en mettrai pas ma main à couper, moi.
Allez, bah on continue, on insiste, Pascal. On va insister avec Damien Béchiot.
Et elle sera ouverte, cette primaire? C'est-à-dire que n'importe qui peut se présenter ou c'est conditionné?
Ah oui, voilà, encore on ne sait pas. Les débriefs pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec l'avis des Rolling Stones sur ce débrief.
Merci Laurent, à 14h30. Jean-Alphonse Richard, à demain.